Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 28 avril et comme tous les vendredis, c'est l'actualité éditoriale qui nous porte. Avec cette semaine, un ouvrage qui va vous apprendre à chasser. La sagesse, bien sûr. À 10h46, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Géraldine qui donnera aujourd'hui quelques précieux conseils à Emmanuel Macron. Mais avant de parler de chasse, au fait, qu'est-ce que c'est un bon chasseur ?
Bien sûr que la chasse, c'est un art. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse. C'est un art. Faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur ?
Oh putain, c'est essentiel. Ouais, putain.
Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur ?
Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire.
Ouais, bien sûr.
Il tire.
Et le bon chasseur ?
Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge. Il tire, mais...
Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard.
Et oui, rien n'est plus difficile que définir ce qu'est un bon chasseur. Prenons les inconnus au sérieux. Pour parler de Nicolas de Cuse. Bonjour Jotin Sfez.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes chargé de cours à l'université de Rouen, à l'université de Lyon, professeur de philosophie en classe de terminale. Et alors vous avez écrit, et vous continuez d'écrire, et vous écrirez sur le philosophe Nicolas de Cuse. Vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres, un ouvrage qui regroupe quelques œuvres de philosophie tardive de Nicolas de Cuse, que vous avez appelé La chasse de la sagesse. Vous avez présenté cette édition ainsi que traduit les textes, et c'est vrai que la chasse de la sagesse, c'est une bonne manière d'entrer dans l'œuvre de Nicolas de Cuse, même quand on ne le connaît pas, parce que la chasse, il faut le prendre au sens premier du terme, il s'agit de partir à la chasse de la sagesse. Comment s'y prend-on ?
Alors, d'abord, c'est pas moi qui ai choisi ce titre. Nicolas de Cuse a appelé cette œuvre de 1462 La chasse de la sagesse. Et c'était pour...
C'est le titre du livre, c'est ça que je veux dire. Vous l'avez mis en avant dans le livre que vous proposez.
J'ai repris le nom du texte qui vaut comme son testament philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il récapitule ici une bonne partie de son œuvre. Alors, il ne fait pas que ça. Il faudrait pas considérer que c'est une œuvre qui clôture, mais c'est une œuvre qui jette un regard rétrospectif sur l'œuvre du Cuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, c'est fondamental. En fait, le philosophe, c'est un chasseur. C'est un chasseur, Nicolas n'a rien inventé, c'est déjà là chez Platon, c'est déjà là chez Aristote, c'est déjà là chez Xénophon. Et en fait, la chasse faisait partie de la paideia, de la pédagogie qui servait à éduquer les jeunes gens et les citoyens, autrefois dans la Grèce antique. Et plus tard, même jusqu'à l'Italie de la Renaissance. Être chasseur, ça signifie avoir une certaine attitude vis-à-vis du monde. Ça signifie aussi une activité essentielle parce que la chasse permet de rapporter un butin dont on se nourrit. C'est une activité essentielle autrefois. Importe à la fois la prise et l'attitude que l'on a dans la chasse. C'est-à-dire qu'on ne chasse pas de n'importe quelle façon, selon la proie qu'on cherche. En l'occurrence, pourquoi le philosophe, qui est le modèle des hommes en général, c'est-à-dire que tout homme est en droit philosophe, part à la chasse, et ben tout simplement parce que en tant qu'il est un être spirituel, un être doué d'esprit, il doit non seulement nourrir son corps, mais aussi son esprit. Et ce qui va le nourrir, c'est la sagesse. Donc, il doit chercher la sagesse. Et cette sagesse, elle n'est pas, immédiatement accessible. Elle se dérobe. Il se trouve que Nicolas est chrétien.
Nicolas, c'est Nicolas de Cuse.
Oui.
Hein. Tout à fait. Vous le connaissez en fait, bien, donc vous l'appelez par son petit nom, mais c'est Nicolas Decuze qui est le nom de sa ville natale.
C'est le nom de sa ville natale. Et en fait, j'utilise l'usage des médiévistes, c'est-à-dire je l'appelle par son prénom, parce qu'en philosophie médiévale, on appelle les auteurs par leur prénom.
Médiéval, vous faites bien de le dire, parce que Nicolas Decuze est un philosophe du XVe siècle, oui, qui est né en 1401, qui est mort en 1464, qui a laissé une œuvre assez importante. On a beaucoup de textes de Nicolas Decuze aujourd'hui qui sont pourtant très peu lus.
Ils sont très peu lus. Alors ça c'est dû à deux choses. D'abord, l'œuvre est en latin. Premier point.
Mais vous traduisez les textes, notamment dans l'ouvrage qui paraît. On a une version française des textes.
On a même deux versions françaises, puisque tous les textes ont été traduits déjà une fois, mais pas toujours comme ce serait souhaitable. Mais jusqu'à présent, si vous voulez, les textes latins, précisément parce qu'ils sont écrits à une époque où l'imprimerie n'existe pas, doivent être édités scientifiquement. Donc il faut faire un gros travail. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas d'édition scientifique et critique de Nicolas Decuze. En fait, l'édition scientifique et critique de Nicolas Decuze a été démarrée en 1931-1932 avec des gens dans l'entourage de Ernst Cassirer, Raymond Klimansky. Et c'est seulement maintenant, donc en 2013-2014, que l'édition est achevée. Avant, on avait une édition qui datait de 1514, qui était l'édition parisienne de Lefebvre d'Étaples, et les textes posaient problème. Donc ça, c'est une première raison. Mm-hmm. La deuxième raison, c'est que Nicolas est un auteur allemand, qu'il n'est pas du tout évident de penser à la philosophie allemande avant le XVIIIe, XIXe siècle. On connaît bien la philosophie allemande du XIXe, du XXe. On a du mal à s'imaginer un auteur vraiment germanique avant. Et la troisième raison, me semble-t-il, c'est que en réalité, c'est extrêmement difficile. Ces textes ont été oubliés aussi parce que c'est un auteur qui est à la fois philosophe et très chrétien.
Comme c'est le cas de la plupart des philosophes du Moyen-Âge, non ? Il faut essayer de contextualiser les choses.
C'est évident, mais ça pose un vrai problème pour celui qui entre dans une conceptualisation qui pose a priori les dogmes chrétiens. Donc il faut, en tant que philosophe, accepter d'abord ces dogmes comme étant un donné, de la même manière qu'on accepte chez Platon les mythes.
Oui, mais donc ça veut dire est-ce qu'on peut s'intéresser et est-ce que la pensée de Nicolas Decuze peut nous parler même si on ne croit pas en Dieu ?
Pour ma part, je ne crois pas en Dieu.
Donc c'est un intérêt purement philosophique pour le coup, conceptuel ?
Alors, c'est un intérêt parce qu'en fait, la métaphysique qu'il élabore, qu'il essaye d'élaborer au XVe siècle, c'est une métaphysique qui va être connue, lu, travaillé par le XVIe, le XVIIe siècle, et notamment le XVIIe siècle français. On oublie un tout petit peu que Descartes, Malebranche, Pascal, et évidemment, j'allais dire Spinoza, Leibniz, ont lu Nicolas Decuze. Et même avant, si vous regardez Montaigne, ou si vous regardez les essais de Montaigne, ou si vous regardez les textes de Rabelais, vous trouverez la trace de cette...
La métaphore de la chasse, on la trouve chez Montaigne. Alors, dans les essais. L'importance de la chasse, c'est pas le gibier, c'est pas la proie, mais c'est le fait de chasser.
C'est le fait de chasser, la façon dont on chasse. Mais il est difficile de considérer que la source, c'est Nicolas, parce que la métaphore de la chasse, elle existe de manière générale à la Renaissance. Cependant, la chasse aux sciences et la chasse à la sagesse, ça c'est typiquement Cuisin. Quand on prend François de Van Helmont par exemple, qui est un auteur qui va être important pour Leibniz, il y a toute une partie de son œuvre qui s'appelle la chasse aux sciences. Et en réalité, chez Nicolas, il y a une transformation, disons, de la théorie de la connaissance qui est extrêmement importante pour la modernité. On ne peut pas dire que ça soit un auteur moderne. Très clairement, chez lui, Dieu reste une pierre de touche. Mais le fait de placer la science comme une élaboration du sujet, En fait, c'est un conceptualisme et non pas ni un nominalisme ni un réalisme va permettre de s'intéresser à l'activité connaissante du sujet.
En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut produire de la connaissance?
Exactement. Et pour ce coup, en fait, c'est de là que moi je suis partie. Je suis pas partie de la philosophie. Moi, j'ai une formation scientifique au départ. Et ce qui m'intéressait, c'était son concept d'approximation. C'était l'idée de la notion de conjecture. Le Cousin considère qu'on n'a jamais accès à la vérité en soi. Ici-bas, donc c'est là qu'intervient Dieu, ici-bas, nous n'avons accès qu'à des images. Et ces images, elles ne sont pas, simplement le résultat de la sensibilité, elles sont construites par l'esprit. Et c'est en travaillant sur notre compréhension de notre activité connaissante, en travaillant sur l'activité de l'esprit, à la fois raison et intellect, que nous pouvons comprendre comment nous créons nos concepts et comme la façon dont on crée nos concepts va nous conduire à comprendre qu'il y a dans le monde sensible la trace de l'existence de Dieu. Au fond, le grand problème de Nicolas, c'est de comprendre comment le monde et la manifestation d'un Dieu créateur. D'où ce qui arrive dans le premier texte du volume, le commentaire en fait, l'explicitation de la parole paulinienne, de l'épître
de Saint Paul,
oui, donc de du verset 1-20 de l'épître aux Romains.
Qui dit comment Dieu manifeste aux hommes ce que l'on connaît de lui. La question, c'est ça, c'est comment l'invisible qui est Dieu peut apparaître dans le monde visible. Ou comment une vérité simple, celle de Dieu, peut apparaître dans un monde multiple.
C'est cet écart entre les deux qui est absolument fondamental.
Et qu'on peut transposer en termes laïques, si j'ose dire, en fait. C'est ça, comment avoir accès au simple à travers le multiple.
Exactement. Alors, la seule chose, si vous voulez, c'est que chez le Cousin, Dieu va être le garant ultime de mes conjectures. Au fond, si j'enlève la pierre de touche que constitue Dieu, il y a un grand vide. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, il y a un moment donné où et le laïc et surtout l'athée sont coincés, ils ont à repenser les choses autrement. Mais ce qui est fondamental, si vous voulez, c'est cette conception qu'il hérite de sa pensée des mathématiques, à savoir que nous sommes les créateurs de nos objets mentaux. Et ce sont des objets, ce ne sont pas des purs, du pur son comme chez les nominalistes. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de l'objet mental.
Qui est une image. Hein.
Qui est une image, qui est une similitude soit des objets réels que Dieu a créés, soit ils ne sont pas à image puisque il n'y a pas de réalité autre que la réalité intelligible, c'est le cas des objets mathématiques. C'est pour ça qu'il y a une prévalence de l'objet mathématique dans la pensée épistémologique du Cousin.
Alors j'ai dit qu'on partait à la chasse, allons-y, voici un extrait de la chasse de la sagesse, c'est difficile à dire, de votre cher Nicolas, puisque vous l'appelez ainsi, Jocelyne Fay. C'est une tradition, donc, chez les médiévistes, on les appelle par
chez
les prénoms.
Chez les médiévistes, on dit Thomas d'Aquin.
C'est vrai qu'on dit Thomas.
On dit, on dit Augustin, mais en fait, c'est Aurelius Augustin. Mais Augustin, il est à la limite entre.
Il est un peu à part.
Entre l'Antiquité et le Moyen-Âge.
Voici le texte, donc, de Nicolas de Cuse, qui montre bien comment cet auteur a pu amorcer ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité, la métaphysique moderne, sans pour autant renoncer à Aristote. Alors c'est un texte particulièrement intéressant parce qu'il permet de le situer dans l'histoire de la philosophie, et puis vous allez entendre sa langue, son verbe, traduit par vous, Jocelyne Fez, et interprété par le comédien Yvan Moran.
Personne ne fut autant attentif qu'Aristote à rechercher avec soin la force des mots. Comme si celui qui avait imposé les noms de toutes choses était parfaitement compétent pour exprimer dans ses mots ce qu'il savait. Et comme si atteindre cette science était obtenir la science parfaite de tout ce qui est connaissable. Pour cette raison, il affirma que c'est dans la définition, qui est l'explication du mot, que se trouve la lumière de la science. Je crois que cela se passe ainsi dans la science humaine qui, comme on le croit, fut d'abord, et de manière excellente, possédée par le premier Adam, c'est-à-dire l'homme. Et pour cette raison, la science, qui est confortée par la force des mots, est très agréable à l'homme dans la mesure où elle est conforme à sa nature. Or, il faut que le chasseur de cette sagesse divine nie de Dieu les mots humains imposés par l'homme. La vie, en effet, qui s'étend à tous les vivants, n'atteint pas Dieu qui est cause de toute vie. Il en va de même pour les mots. Cette recherche, qui est la nôtre, de la sagesse ineffable qui précède à la fois celui qui impose les mots et tout ce qui est nommable, se trouve davantage dans le silence et la vue que dans le bavardage et l'écoute. Elle présuppose que ces mots humains qu'elle utilise ne sont ni précis, ni angéliques, ni divins, mais elle les prend, puisqu'autrement elle ne peut pas exprimer de concept, ayant pourtant présupposé qu'elle ne veut pas, avec ces mots, signifier quelque chose pour la signification de laquelle les mots sont imposés, mais la cause de celle-ci. Ayant présupposé aussi que les mots sont intemporels, puisqu'elle veut figurer l'éternité par leurs moyens.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h17. Bienvenue sur les chemins du vendredi où, comme chaque semaine, nous parlons d'actualité éditoriale. Et aujourd'hui, notre actualité, eh bien, c'est celle de la chasse de la sagesse. C'est le titre d'un texte de Nicolas de Cuse et on trouve ce texte ainsi que d'autres textes de Nicolas de Cuse dans un ouvrage qui paraît aux éditions Les Belles Lettres, des textes traduits et présentés par mon invité Jocelyne Sfèze. Le texte que l'on vient d'entendre... donne une idée. C'est un texte simple hein, par rapport aux autres textes qu'on peut trouver de Nicolas de Cuse, c'est parfois beaucoup plus compliqué.
Et pourtant très dense.
Et très dense, voilà, mais au moins on comprend à peu près tous les mots, ce qui n'est pas toujours le cas, on va y venir. Hein. Il invente certains vocables justement qui peuvent être difficiles à comprendre. Mais d'ailleurs, c'est aussi le sens du texte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est paradoxal pour un philosophe, hein. Les mots importent évidemment, il faut savoir les définir, mais les mots ne disent pas tout.
Non seulement ils ne disent pas tout, mais là en l'occurrence, Nicolas fait la distinction entre, disons, une science humaine, qui serait éventuellement même la science de la nature, et la science divine. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que dans ce paragraphe qui est issu du chapitre 33, la chasse en comprend 39, donc c'est un chapitre essentiel parce que c'est un chapitre qui fait le point sur ce qui a été dit avant, eh bien il va chercher Aristote. Vous le disiez avant la lecture du passage, pour montrer à la fois ce qui est génial chez Aristote et ce qui est problématique.
Alors je reviens. Aristote qui est beaucoup retravaillé au Moyen Âge.
Alors il est beaucoup retravaillé au Moyen Âge et en fait Nicolas va avoir un vrai problème, c'est-à-dire que ça m'oblige à rentrer un petit peu dans la métaphysique elle-même ou dans son essai.
Allons-y. On part à la chasse.
Chez Aristote, il y a l'intellect, un premier moteur qui est un moteur éternel, qui met en mouvement donc la nature. Mais la nature elle-même est éternelle. Il n'y a pas la question de la création chez Aristote, chez les Grecs. Nicolas, vous le disiez tout à l'heure, c'est un penseur chrétien. Or, il se trouve à devoir expliquer comment la surnature, un être personnel, a créé la nature. Donc, la nature n'a pas toujours existé. Comme il pense Dieu comme infini, sa question est la suivante, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il pense la création. Les autres philosophes chrétiens qui l'ont précédé, et en particulier je pense à la scolastique, c'est-à-dire au grand siècle, le 13e siècle médiéval, ont développé une méthode en théologie qui est inspirée d'Aristote et qui cherche à établir les substances grâce à la recherche des définitions. Or, cette recherche des définitions, elle n'est pas possible pour ce qui concerne Dieu, parce que Dieu précisément n'est pas accessible par la raison. La raison, c'est une faculté humaine et elle est incapable de saisir l'infini. L'intellect pourra éventuellement nous en donner une idée, en tout cas nous permettra d'approcher davantage. Et la deuxième chose, c'est que ce travail définitionnel passe par les mots. La mise en œuvre des mots a conduit au développement de la disputatio au Moyen-Âge. Et cette disputatio, comme son nom l'indique, en fait c'est l'ancêtre de notre dissertation, mais il y a la notion de dispute, les gens se chicanent pour des mots. Et donc en fait, Nicolas pense une théologie, donc un savoir sur Dieu qui... ne peut pas arriver par un travail définitionnel simplement et qui ne conduise pas au déchirement entre les hommes. En réalité, il va mettre en place une autre méthode qui s'appelle la méthode de la résolutio, qui consiste à aller chercher derrière tous les discours différents l'unité.
Et cette unité, est-ce qu'elle sera d'ordre discursif? Puisque si les mots ne suffisent pas, est-ce qu'il ne faut pas s'en référer? Pour le coup, vous parlez de l'importance de l'image. Et on a fait une émission ici, il n'y a pas si longtemps, sur Averroès, avec Jean-Baptiste Brenet. Averroès, qui, ce qu'on appellerait nous le fantasme, est-ce qu'il y a certains rapports à l'image, et finalement ce qui crée un lien entre les hommes, et qui dépasse largement la faculté humaine, mais il y a une forme de... C'est je fantasme, donc nous sommes. On pourrait quasiment résumer comme ça. Est-ce que chez Nicolas Ducuse, il y a cette possibilité quand même de penser un lien entre les humains qui ne soit pas Dieu?
Alors justement, pour Nicolas, non. La pensée reste malgré tout, et la pensée discursive reste malgré tout, le moyen de nous élever vers cette unité.
Malgré son insuffisance.
Malgré son insuffisance. C'est-à-dire qu'en fait, le travail réflexif, c'est-à-dire pas simplement de distinction, mais de retour sur soi et de contemplation, va amener à la prise de conscience qu'il y a un au-delà. Au-delà des mots.
En faisant un retour sur soi. C'est un peu comme Saint-Augustin, justement, plus je rentre à l'intérieur de moi, plus je peux en sortir.
Tout à fait.
Je trouve l'infini
Exactement.
En moi.
De toute façon, cette présence augustinienne, elle est claire.
Ça, c'est fondamental, dire que Dieu n'est pas hors de moi, il est à l'intérieur de moi.
Mais c'est en allant dans le monde que je peux retourner vers moi. C'est-à-dire que quand je mets en œuvre ma raison, d'abord dans un premier temps, et que je perçois le monde sensiblement, à partir du moment où je perçois des différences, ces différences, elles ne me sont pas données. Ça suppose la mise en œuvre d'une entité spirituelle. Et donc la reconnaissance que dans ma perception sensible, il y a un travail de la pensée, m'oblige à me pencher sur l'origine de cette pensée. Et donc, à trouver un principe spirituel à l'origine de ma propre spiritualité.
Est-ce qu'on peut, pour essayer de procéder par comparaison avec des auteurs peut-être un peu plus connus et plus lus aujourd'hui, quel lien avec la méthode cartésienne qui consiste à s'interroger, là aussi sur les méthodes de connaissance du monde, en disant, mais je suis un être fini, c'est-à-dire que je vais mourir, mais j'ai pourtant en moi l'idée de l'infini. Or, comme en moi fini, pourrais-je avoir l'idée de l'infini si quelqu'un d'infini ne l'avait pas semé dans mon esprit, donc Dieu existe?
Alors, il y a un lien, et on est très loin de Descartes. Il y a un lien pour autant que ce à quoi j'ai accès par la pensée, c'est l'infinité finie du monde.
Mais l'infinité peut être finie.
L'infinité finie du monde, c'est le fait que, en fait, il y a une indéfinité du monde.
Donc voilà, on ne voit pas la limite, donc on pense, on postule une conjecture. Il n'y a pas de fin.
Il n'y a pas de fin.
Mais on ne peut pas affirmer que c'est infini, alors, donc c'est indéfini.
C'est indéfini au sens où je ne pourrais pas épuiser le monde dans ma recherche connaissante. Et cette distinction entre infinité, infini, fini et infini, infini, Descartes la reprend. Sauf que Nicolas considère que cette infinité finie du monde est l'expression de l'infinité infinie de Dieu. En fait, c'est le rapport entre l'enveloppement et le développement. Mm-hmm. Les choses sont enveloppées dans l'intellect divin et elles sont développées dans le monde.
Alors on va essayer, on va continuer à déplier et déployer la pensée de Nicolas de Cuse avec vous, Jocelyne Sfèze, en procédant peut-être comme Nicolas de Cuse le fait lui-même, par image. On va entendre un extrait d'un autre texte où il propose une image qui est très parlante puisqu'il s'agit de l'image de la toupie. Et la toupie, on peut tous se représenter ce que c'est. Après, quant à tirer les conclusions que Nicolas de Cuse en tire, c'est une autre affaire. Peut-être un élément de contexte sur ce dialogue, le dialogue à trois sur le pouvoir est. Qu'est-ce que il faut peut-être s'imaginer, hein, que c'est donc un dialogue à trois. Il faut s'imaginer ces trois amis qui discutent. Qui sont-ils, Jocelyne Sfèze?
Alors, il y a Bernard de Kreyburg et Jean de Bussy. Et puis Nicolas. Et en fait, ils sont... c'est l'hiver. On est en 1460, on pense que c'est 1460. Nicolas est retiré à Andraz, dehors Sigismond veut sa peau. En fait, Nicolas a mis en place, a tenté de mettre en œuvre une réforme des communautés religieuses, des abbayes, et il est en butte au pouvoir local. Et donc, il y a une révolte à l'extérieur, il s'est retiré dans ce château, où Bernard, qui est un ami très cher, et Jean, son secrétaire...
Parce que Nicolas de Cuse est religieux à ce moment, il faut le dire.
En fait, il est à l'époque, il est déjà cardinal, il est évêque de Bressanone, et Andraz, ou Brunstein, c'est dans les environs de Bressanone. Et dans ce contexte, dans cette région-là, il a essayé de faire appliquer, en fait, la clôture des cloîtres et des abbayes qui n'étaient pas tout à fait respectées. Et c'était les jeunes femmes de bonne famille qui se retrouvaient dans les cloîtres et ou les abbayes et qui ne menaient pas forcément une vie, disons, conforme à leurs vœux. Et donc, ils sont coincés dans ce château où il fait très très froid. Et donc, c'est une occasion, si vous voulez, enfin ça c'est une mise en scène, hein. C'est une occasion de reprendre la question de la théophanie.
C'est-à-dire
il s'agit donc de comprendre comment, d'après Romains 20, donc l'épître aux Romains de Paul, comment on peut visualiser l'invisible du point de vue de la connaissance
humaine
de Dieu.
Comment Dieu manifeste aux hommes ce que l'on connaît de lui.
C'est exactement le
verset 20 de l'épître
comment,
de Paul aux
Romains. En réalité, on peut avoir accès à Dieu à travers la création. Et donc la solution que propose Nicolas...
On va l'écouter.
Oui. Alors c'est un tout petit peu plus loin, mais on vient.
Alors allez-y. Alors dites-nous la solution et ensuite on verra.
En fait, c'est que l'homme regarde le monde visible, le monde sensible, non seulement avec ses sens, mais aussi avec sa raison. Et que et donc c'est ce que je vous expliquais il y a un instant, c'est-à-dire qu'il y a un principe spirituel qui dans l'homme, que l'homme découvre à l'occasion de la perception du monde sensible, qui l'oblige à faire retour vers lui sur ce principe spirituel et à découvrir donc qu'il y a un Dieu à l'origine de ce principe spirituel.
Donc la toupie peut être comme ce qui peut faire passer de la confusion sensible à une réalité intelligible. Écoutez.
Nous pourrions débusquer dans ce mouvement de la toupie de nombreuses et belles choses. Par exemple, comment un enfant voulant rendre vivante sa toupie morte, c'est-à-dire sans mouvement, lui imprime, par le génie inventif de son intellect, la similitude de son concept de mouvement et comment, par un mouvement à la fois droit et oblique de ses mains, c'est-à-dire en poussant et en tirant à la fois, il lui imprime un mouvement au-delà de la nature de la toupie, puisque celle-ci n'aurait d'autre mouvement que celui qui la porte vers son centre, comme tout grave. Il la fait tourner de façon circulaire, comme le ciel. Et cet esprit moteur est présent de façon invisible dans la toupie plus ou moins longtemps, selon l'impression de la force communiquée. Lorsque la toupie a cessé de tourner, elle retourne à son mouvement antérieur, vers le centre. Ceci n'est-il pas une similitude du Créateur voulant donner l'esprit de vie aux non-vivants ? Comme il a prédéterminé de l'accorder, les cieux, qui sont les instruments de l'exécution de sa volonté, sont ainsi mus par le moyen du mouvement, à la fois par un mouvement rectiligne de l'Orient à l'Occident, et par ce même mouvement de retour de l'Occident à l'Orient, comme le savent les astrologues. Et l'esprit de vie, insufflé par le zodiaque animal, meut vitalement ce qui, par sa nature, était dépourvu de vie, et le vivifie aussi longtemps que perdure l'esprit, puis il revient à sa propre terre. De telles choses, qui ne relèvent pas de la présente spéculation, et de nombreuses autres encore, sont très bien signifiées par ce jeu d'enfant. Elles ont rapidement été remémorées afin que vous considériez comment, même dans le savoir-faire des enfants, la nature resplendit, et en elle, Dieu. Et comment les savants du monde, qui ont sous-pesé cela, sont parvenus à des conjectures plus vraies sur ce que l'on peut connaître.
Cette toupie qui tourbillonne, c'est celle de Georges Bizet sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est 10h32, nous parlons de Nicolas de Cuse aujourd'hui, l'auteur de nombreux textes, dont l'un qui prend cette image de la toupie pour expliquer ce qu'il veut dire. C'est un extrait du dialogue à trois sur le pouvoir est de 1460, interprété ici par le comédien Yvan Morane. Et c'est la philosophe Jocelyne Sfez qui vient nous en parler aujourd'hui, puisque c'est à elle que l'on doit la traduction et la présentation de quelques textes de Nicolas de Cuse qui paraissent aux éditions Les Belles Lettres sous le titre « La chasse de la sagesse ». Alors on en a dit deux mots. Et nous arrivons maintenant à la toupie. Le terme peut-être important de ce texte, d'ailleurs, d'abord, une pensée pour les agrégatifs de philosophie qui ont Nicolas de Cuse à l'oral dans la discipline, dans l'épreuve de latin. Mm-hmm. Je dis une pensée pour, une pensée solidaire, parce que quand on entend les textes, on comprend quand même que c'est vraiment pas très facile.
Surtout que c'est ce texte-là, ce texte du Possest qu'ils ont, qui est probablement un des textes à la fois les plus intéressants, les plus novateurs, mais aussi les plus difficiles.
Il faut le dire, parce que quand on entend le texte, forcément, on se dit que c'est très compliqué. Oui. C'est vrai, c'est pas une illusion de l'esprit, là, pour le coup.
Et puis, en plus, ce texte-là, la toupie, donc, qui est un des moments clés de l'œuvre, c'est à la fois... ça répond à une demande de Bernard, qui était...
Bernard
de Kreisbourg, qui est donc un des interlocuteurs. Nicolas vient d'expliquer... à partir du travail de sa raison, qu'il peut déduire que les choses dérivent d'un principe spirituel. Après avoir discuté la différence de visibilité entre la création visible de Dieu et Dieu lui-même, en rapport avec la notion d'acte et de puissance absolue, qui sont identiques dans le cas de Dieu et limitées et différentes dans le cas de l'être humain, Bernard demande... à Nicolas d'illustrer ce qu'il vient de raconter. Il dit au paragraphe 18, et c'est le début de cet exemple de la toupie, « Nous souhaitons être conduits par la main grâce à quelques représentations imaginaires sensibles, surtout pour savoir comment l'éternel est toute chose en même temps et dans l'instant la totalité de l'éternité. » C'est-à-dire que comment l'éternité se donne dans le temps. Bien. En fait, Bernard demande une manuduction, C'est un guide sensible pour avoir accès
une
à
image.
Quelque chose. Oui, une métaphore.
Une métaphore.
Bien. Et la toupie est une énigme. Alors, c'est pas simplement une métaphore. C'est véritablement un dispositif, un moyen réfléchissant, hein, dira-t-il au paragraphe 21, un dispositif qui permet de produire une expérience artificielle par laquelle on peut réfléchir et grossir la réalité de telle manière à la rendre visible dans une image. C'est exactement ce qui se passe dans le texte, dans un des textes qui précède le Dépossessed, qui est le Béryl, dans lequel Nicolas a explicité, a repris sa critique d'Aristote. Et donc l'énigme ici, c'est ce à travers quoi il faut regarder pour comprendre la réalité considérée. Et donc, c'est par l'énigme qu'on va accéder véritablement au savoir, et ce savoir de la sagesse divine, c'est ce que Nicolas appelle une science énigmatique.
Donc, prenons le cas de la toupie.
Alors, la toupie. La toupie, elle va permettre de cristalliser sur son exemple la compréhension entre la coïncidence entre le temps et l'éternité. Elle va permettre de comprendre comment la diversité des opinions peut renvoyer à une seule science. Et c'est la troisième interprétation. Ces deux premières interprétations sont le fait de Nicolas, et la troisième interprétation est celle de Bernard, que Nicolas accorde à Bernard, à savoir que en fait nous n'avons pas accès à la raison des choses, mais disons que ces raisons ne sont pas différentes dans l'un absolu, alors qu'elles sont différentes dans les choses individuelles.
Concrètement, comment la toupie nous montre ça, alors, juste pour qu'on puisse se figurer les choses.
Quand vous lancez la toupie, quand un enfant lance la toupie, et n'importe quel enfant a joué déjà à la toupie, il faut entendre la toupie avec une ficelle. Donc presque comme un yo-yo. Donc quand vous tirez la toupie vous lancez la toupie et que vous la retirez vers vous, vous lui faites, vous lui impulsez, vous lui donnez une force, un épée douce pour reprendre le terme exact de
un
la
élan,
tradition,
exactement,
qui va conserver pendant un certain temps. Et si vous communiquez une force suffisamment grande, eh bien la toupie va apparaître dans son mouvement immobile.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle ne bouge même
elle
plus tellement elle va
plus.
Vite.
D'accord. Et à ce moment-là, Nicolas explique que si vous vous figurez deux cercles sur la toupie. Donc vous pensez une toupie avec un axe vertical et un cercle. Il y a un cercle immobile, horizontal, donc qui traverse perpendiculairement l'axe de rotation. Pensez un cercle immobile sur lequel vous faites tourner, donc ça sera véritablement la toupie, un cercle à toute vitesse, à une vitesse maximale. Tel que, en réalité, vous aurez le sentiment que ce deuxième cercle ne bouge pas. À ce moment-là, vous avez la coïncidence entre chaque point fixe du cercle fixe et le point qui tourne sur le cercle mobile. Cette coïncidence entre ces deux points,
l'immobile et le mobile,
permet de concevoir que l'éternité qui est figurée par le cercle qui tourne à toute vitesse. Et ça, c'est exceptionnel, puisqu'en fait, on aurait tendance à penser l'inverse. est identique au point fixe.
C'est-à-dire qu'on peut penser à l'éternité dans le mouvement.
On peut
et donc, il
l'éternité
peut y avoir de...
est dans le mouvement, et le mouvement est dans l'immobilité.
Tout ça pour dire, il faut garder en tête que ce qui préoccupe Nicolas de Cuse à ce moment-là, c'est quand même les moyens de connaissance du monde et par quels moyens Dieu se fait connaître. C'est une manière, avec la toupie, de montrer comment l'invisible se manifeste dans le visible.
Exactement. Mais c'est-à-dire que nous sommes sur le cercle immobile et nous envoyons un aspect. Et ce que nous voyons suffit à nous faire penser cette éternité, d'une part, cette unité, dans la diversité de nos...
C'est-à-dire que c'est accessible à chacun. Enfin, c'est pas du tout une pensée de l'individu, mais c'est-à-dire que notre point de vue sur le monde suffit pour accéder.
Oui,
suffit à accéder à l'infini.
Mais si je garde seulement mon point de vue, je ne le vois pas. Il faut que je perçoive la différence avec le point de vue de l'autre.
D'accord.
Pour comprendre que nous sommes chacun sur ce cercle-là et que par conséquent, je pourrais endosser la place de l'autre. Et c'est là que c'est intéressant d'un point de vue aussi politique, puisque en réalité, la diversité de nos conjectures nous conduit à penser une communauté. C'est parce que nous sommes divers et que en même temps nous sommes semblables que nous pouvons constituer une communauté.
Et c'est parce que nous devons prendre en compte le point de vue d'un autre, un point de vue d'altérité, pour arriver à la connaissance que nous avons du coup cette sensibilité politique.
Exactement.
Il n'y a pas de connaissance sans prise en compte de l'altérité.
Pas de connaissance scientifique sans prise en compte de l'altérité des conjectures. De connaissance de Dieu sans prise en compte de cette altérité qui nous fait qui nous donne comme devoir la tolérance.
Mais ça, pour le coup, c'est paradoxal parce qu'on avait dit tout à l'heure que Dieu était à l'intérieur de nous, qu'il fallait regarder au plus profond de nous, à l'intérieur de nous, fini pour accéder à l'infini. Et là, vous dites que même pour Dieu, il faut avoir accès à l'altérité.
Oui, parce que en réalité, c'est quand je vais à la fois prendre en compte la diversité et faire l'expérience de l'unité de la diversité, que je vais pouvoir comprendre qu'il y a au-delà la diversité sensible.
Mais là, il s'agit de la connaissance ou de la croyance? Parce que la croyance n'a pas besoin. La croyance a besoin des autres également.
Ah, exactement. Et en fait, si
c'est
vous
pas
voulez,
une affaire non,
pas du tout. En réalité, je dois absolument chercher l'accord avec autrui. Et c'est de ce point de vue-là que Michel de Certeau, dans la fable mystique, dans son deuxième volume de la fable mystique qui est paru il y a 2 ans grâce à l'édition de l'UJR, manifeste un intérêt très considérable pour Nicolas de Cuse, parce qu'il partage ça, c'est-à-dire que je ne crois pas tout seul. Je crois parce que je crois avec autrui. Alors, ça se figure dans des visionnées Dei, dans la vision de Dieu. Au début, vous avez une expérience. Là encore, c'est une manuduction, hein, ce que je disais, un guide sensible.
Allez-y rapidement,
Nicolas,
on est presque au bout.
Nicolas, propose un tableau d'omnivoyant, et chacun des personnes qui regardent le tableau omnivoyant, donc c'est une peinture devant, donc c'est un tableau où la personne qui est figurée peut voir n'importe qui. Allez rire de la Joconde, c'est ce qui se passe. Donc chacun croit, quand il se déplace, que le regard le suit. Mais dans le même temps où l'autre fait le mouvement en sens inverse devant tableau, il s'aperçoit, lui, qui est en train de faire ce mouvement, que l'autre a exactement la même expérience. Et donc...
Tout le monde s'observe.
Tout le monde s'observe, mais ça veut dire surtout que je me mets à la place de l'autre qui fait la même expérience que moi, et par conséquent, ce que je vis, ça n'est pas une fabulation. Pour reprendre l'histoire du fantasme, c'est pas un fantasme, c'est la réalité.
Et c'est l'autre qui me conforte dans cette réalité.
C'est la croyance en la parole de l'autre et en l'expérience de l'autre qui fait que je sais que nous avons un monde commun.
Je crois en votre parole, Jocelyne Fess, donc nous avons un monde commun et donc j'existe. C'est la bonne nouvelle. Merci d'être venu nous parler de Nicolas de Cuse aujourd'hui. L'ouvrage que vous proposez aux éditions Les Belles Lettres s'appelle « La chasse de la sagesse et autres œuvres de philosophie tardive » de Nicolas de Cuse. Vous avez traduit ces textes et vous les présentez dans une introduction extrêmement claire. Il vous reste à lire ce livre, chers auditeurs, et on se quitte avec la toupie.
Quelque part dans l'univers, j'habite un grain de poussière que je partage avec plus de 3 milliards d'inconnus. C'est jaune et noir et c'est blanc, c'est beau, c'est bon, c'est méchant.
Et oui, la toupie de Daniel Pop, c'est une trouvaille de notre chargé de réalisation David Jacubovies. Sur France Culture, les chemins de la philosophie à 10h46. Il est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, le petit précis philosophique à l'usage des candidats de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Alors chaque semaine, depuis le début de cette campagne, vous prenez du temps pour dispenser des conseils aux candidats. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il n'en reste que deux. Ils ont bien besoin de vos conseils. Alors, quel des deux avez-vous choisi de venir en aide cette semaine?
Eh bien oui, Adèle, après plusieurs mois de suspense, effectivement, les résultats sont tombés dimanche. Donc, ce serait Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen, on lui donnera un conseil la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, un conseil pour le candidat En Marche.
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas me présenter du tout.
Dimanche dernier, plus de 35 millions de Français se sont exprimés en faveur d'un des 11 candidats à l'élection présidentielle. Et depuis, la question fleurit partout. Au final, qui a voté pour qui? Qui s'est mobilisé pour qui? Quel est donc le profil de l'électeur de tel candidat? Comme si l'enjeu d'une élection était de déterminer après coup et presque malgré nous, seulement en fonction de nos milieux, l'électeur type que nous sommes par candidat. Mais n'est-ce pas inverser les choses? Ne devrait-on pas plutôt se demander quel est avant tout le profil du candidat qui peut mobiliser, lui, les électeurs dimanche 7 mai?
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet!
De la passion, voilà ce qui pourrait donner envie aux électeurs de se mobiliser pour Emmanuel Macron. Voilà ce qui pourrait définir une des qualités essentielles d'un candidat. Max Weber, dans sa fameuse conférence de 1919, « La vocation et la profession de politique », faisait même de l'attachement passionné à une cause la première des qualités du pouvoir. Mais la passion, quand elle prend la forme d'une telle excitation, au service seulement de son propre projet, ne tourne-t-elle pas à vide et ne devient-elle pas vaine?
Bonjour à toutes et tous. Voilà, on fait un peu le bilan de la semaine. Ça va être la nouvelle version des conversations au coin du feu. Parce que je trouve que c'était important qu'on puisse faire le point à la fin de chaque semaine, essayer de récapituler ce qui s'est passé, ce qui est important. Important pour vous, il faut m'écrire, me le dire. Et moi, je vais essayer de vous dire ce qui est important pour moi.
Eh bien oui, pour que la passion ne soit pas stérile, il faut lui ajouter ce que Max Weber appelle le coup d'œil. Cette deuxième qualité essentielle de l'homme politique, cette capacité, je cite, de laisser agir sur soi les réalités dans la tranquillité, c'est-à-dire la distance à l'égard des choses et des hommes. Et c'est exactement cette idée de faire un bilan, tranquillement, au coin du feu. Mais voilà, ici encore, Emmanuel Macron propose de finir avec ce qui est important pour lui. Et c'est là le problème, que la passion et la distance, ces deux qualités de l'homme politique, ne soient chez Emmanuel Macron que des qualités, qu'elles soient vaines. Et qu'entre l'excitation stérile et l'intérêt pour soi, il ne reste donc que la vanité. Et c'est d'ailleurs le soupçon qui plane sur lui depuis le début de cette campagne et depuis dimanche dernier. Mais la vanité est-elle forcément le signe d'un candidat complètement vain?
J'arrive premier du premier tour avec un score qui dépasse celui que Jacques Chirac en 2002 faisait face au Front National il y a donc un peu plus de 15 ans. Est-ce que ça n'est pas, pour ce qui me concerne en tant que candidat, un élément de satisfaction, une victoire? Oui, donc je ne vais pas prendre une mine grave. Par contre, la gravité, je l'ai portée dès mon discours de soir, je l'ai aujourd'hui, et ce combat, menons-le. Mais s'il vous plaît, tournez la page, redescendez, vous passez à autre chose, passez à la vraie vie du pays, et parlons de la vie du pays, des problèmes de nos concitoyens, et du vrai clivage politique qui existe aujourd'hui en France, entre Marine Le Pen et celui que je porte.
Et oui, depuis dimanche dernier, jour du premier tour, depuis son discours et son dîner parisien aux allures de victoire, c'est bien la vanité, ennemi mortel de tout dévouement à une cause et de toute distance à l'égard de soi-même, ennemi tout à fait trivial et trop humain, que l'homme politique doit surmonter en lui-même, que doit surmonter en particulier Emmanuel Macron. Mais comment faire? Car il y a un paradoxe. La vanité, ce besoin, nous dit Weber, d'occuper le devant de la scène de la manière la plus visible, ne peut se combattre aux yeux de tous qu'en jouant encore sur des qualités visibles, des postures, des élans et des phrases chocs. Comment dès lors ne pas être sans cesse soupçonné de tourner à vide? Et comment l'homme politique, en campagne, en pleine démonstration, peut-il montrer autre chose de lui que ce qui peut se voir? Et si Emmanuel Macron était en fait le plus transparent des candidats, le seul à nous montrer ce besoin de se montrer, mais voilà, est-ce pour nous tout autant consistant et satisfaisant que pour lui?
Et donc, quel conseil avez-vous lui donné ?
Eh bien, entre nous, électeurs réduits à des profils et lui, candidat, réduit aussi à son profil, c'est le même enjeu. Nous sommes condamnés à nous fier et même à nous mobiliser seulement en fonction de ce que l'on perçoit chez un candidat, comme cette passion du pouvoir. Mais pour que la vanité ne soit pas vaine, je conseille d'aller lire les premières pages de cette conférence, La profession et la vocation de politique, où Weber fait la distinction entre vivre de la politique et vivre pour la politique, où la vanité n'a rien de vain quand elle est celle d'une vie dédiée à la politique.
Merci Géraldine, une chronique à réécouter en ligne sur le site de Chemin de la Philosophie ainsi que cette émission consacrée à Nicolas de Cuse, La Chasse de la Sagesse, disponible en ligne et puis en téléchargement afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. Merci à Géraldine Mosna-Savoie qui a préparé cette émission et le reste de l'équipe des Chemins, c'est Marianne Chassor, Antoine Ravon, Nicolas Bouteloup, Livia Garrigue, David Jacques-Beauviez qui a la réalisation cette semaine, Jean-Guilain Meige à la prise de son qui vous salue bien de sa main gauche. À 11h sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde. Bonjour Florian.
Bonjour Adèle.
Le vendredi pour vous, c'est une table ronde, n'est-ce pas ?
Absolument, et nous allons parler de la situation sécuritaire au Sahel, du Mali en particulier.
Eh bien, bonne émission Florian.
Merci.
Et à lundi. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine sur un nouveau thème, et ce thème, ce sera l'érotisme. Chez Platon, chez des philosophes contemporains, on parlera de Kama Sutra, on donnera la parole à ceux qui sont contre l'érotisme, une exploration des différentes facettes de l'érotisme, de la sexualité chez les philosophes. Et oui, ce sera le programme, notre programme de l'entre-deux-tours.